France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Ces derniers jours, des frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël ont visé l'Iran, faisant à ce jour au moins 555 morts. Samedi, c'est la résidence du guide suprême qui a été touchée. Quelques heures plus tard, la télévision iranienne confirmait la mort d'Ali Khamenei. En parallèle et dans le même temps, d'autres figures du régime ont été tuées. Mais le régime, justement, est-il sur le point de s'effondrer? Est-ce que la mort de Khamenei affaiblit suffisamment le régime? Comment les gardiens de la révolution préparent la suite? Un invité ce soir qui a accepté de revenir à Question du Soir, Bernard Ourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et membre du comité de rédaction de la revue Orion 21. Merci donc de revenir au micro de France Culture. Et un mot pour commencer sur la mort du guide suprême lui-même, sur la mort d'Ali Khamenei ce samedi. Il était la clé de voûte du régime, on le sait. Comment se fait-il que l'édifice tienne d'aujourd'hui sans sa clé de voûte?
Parce qu'il n'est peut-être pas la clé de voûte, justement. C'est qu'il était certain en haut, il devait mettre sa signature à peu près tous les décrets et toutes les lois de la République islamique, mais c'est quelqu'un d'intelligent, qui avait une expérience remarquable de quasiment, il est au gouvernement depuis le début de la République islamique d'une façon ou d'une autre, donc il connaissait bien tout son monde, et il essayait de faire qu'il n'y ait pas trop de dissension entre tous les crabes qui grenouillaient autour de lui. Et donc, il était la clé de voûte, certes, mais il était quelqu'un aussi qui connaissait tout son petit monde et était capable de le faire fonctionner. Mais sans être forcément quelqu'un qui prenait des décisions. Dans la tradition des mollahs, souvent, c'est le conseil. On discute, et à la fin, on prend une décision, mais sans trop la prendre, un peu consensuelle.
C'est un chef qui ne prend pas de décision.
Mais il n'a jamais pris de décision, pas de stratégie. Il réagit. La République islamique, depuis le début, est réactionnaire. Il se passe quelque chose, il réagit. Ils réagissent bien, en général. Quand Saddam Hussein attaque l'Iran, bon, ils n'ont pas prévu cela, ils n'ont pas eux compris l'initiative d'attaquer l'Irak, ils ont bien réagi, ils ont construit l'association du nationalisme iranien avec le clergé, et ils ont résisté à l'agression irakienne, etc. Quand Israël attaque le Liban en 82, les Palestiniens, bon, ils n'ont pas prévu cela, et les Iraniens vont construire le Hezbollah par la suite, en réaction pour essayer de... Bon. Donc le guide était quelqu'un qui, à mon sens, était ça de la clé de voûte, mais peut-être justement n'avait pas une vraie stratégie, puisqu'il avait en 2015, par exemple, accepté l'accord sur le nucléaire, et après, il n'a pas su trop quoi faire. Et donc, je disais quelquefois, des amis qui me disaient, mais l'Iran c'est une dictature. Je dis non, hélas, ce n'est pas une dictature, c'est une polydictature. Il y a plusieurs pouvoirs qui sont là, et le guide au-dessus, il essaie d'être le super dictateur qui va contrôler tout ça, mais je ne suis pas sûr qu'il contrôlait tout.
Dans la première partie de Question du Soir, on a entendu un discours officiel iranien qui annonçait la mort du guide suprême. Et ce qui frappait, en l'écoutant, c'était peut-être la martyrologie qui encercle désormais le guide suprême. À quel point cette figure du martyr est-elle importante pour comprendre la disparition, le décès, l'assassinat en l'occurrence d'Ali Khamenei?
Le martyr, ça remonte à la guerre Irak-Iran. C'était le début où la révolution islamique pleurait l'imam Hossein, avait comme modèle l'imam Hossein qui s'est sacrifié et était martyrisé pour défendre la communauté, etc. C'est le discours, mon ami Farhad Rostropovar a beaucoup travaillé sur le martyrisme, la logique du martyrisme, la mort comme vertu en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, en reprenant ces termes de martyr, je dirais pas, ça fait pas rire, parce que c'est pas, on rit pas avec la mort, mais c'est du has-been, c'est des histoires d'il y a 50 ans. Maintenant, la logique du martyrisme n'émeut plus grand monde. On essaie de dire ce sont des martyrs, mais c'est un peu un mot calqué sur une réalité. Les Iraniens d'aujourd'hui sont loin de partager cette sensibilité qui était les martyrs. Et actuellement, Khamenei n'est pas un martyr. Je ne sais même pas si pour ses partisans il l'est. C'était un chef qui est mort, donc ils ont la trouille, ils ont peur. Mais c'est pas forcément un martyr.
Un extrait d'une tribune qui a apparu aujourd'hui dans le journal Le Monde et signé du sociologue que vous connaissez, Clément Terme. Il écrit, avec lui s'éteint le romainisme comme projet étatique conquérant. Non parce que les institutions de la République islamique se seraient effondrées ou que les défections dans l'appareil de sécurité se seraient soudainement accélérées, mais parce que sa logique propre l'a conduit à son point de rupture. Fin de citation. C'est le romainisme qui s'est aussi effondré avec l'homme qui l'incarnait.
Oui, mais est-ce que Khamenei était roméniste? Il a succédé à Khomeini.
Grande question, là.
Oui, il n'avait pas la carrure de Khomeini, il n'avait pas ses idées complètement. Et consensuellement, c'est lui qui a été l'apparatchik du système. Et c'est ça tout le problème. Khomeini était un idéologue. Il pensait que l'État devait être gouverné en fonction de l'islam, qui apporte des vertus importantes, idéologiques. Khamenei était un jeune mollah de 40 ans, au début, qui est devenu vice-ministre de la guerre. Il a changé son turban pour un casque de soldat. Autrement dit, il est devenu dès le départ un apparatchik, quelqu'un un politique. C'est pas un religieux. Il avait à peine une licence de théologie. Et donc, c'est même pas le roménisme. C'est au contraire la République islamique dans tout ce qu'elle a de lourdeur dictatoriale. Et finalement, le décor religieux en Iran n'était qu'un décor. Et le fond, c'était une dictature banale qui réprimait, qui contrôlait. Et finalement, il n'y avait rien de religieux là-dedans, sauf que, effectivement, le fait d'avoir un turban sur la tête, d'être religieux, permettait d'avoir une base populaire qui, ma foi, ne s'insurgeait pas contre quelqu'un qui, a priori, est un mollah, c'est-à-dire quelqu'un de sage et de cultivé. Mais il a un peu... Khamenei a peut-être tué les mollahs, en quelque sorte, tué l'image qu'il représentait de quelqu'un de savant et d'humaniste.
On va revenir, Bernard Houkat, sur cette base et la solidité de cette base que vous mentionnez, mais je voudrais d'abord vous faire entendre la voix du président du Parlement iranien.
Nous nous sommes préparés pour ces moments et pour tous les scénarios possibles.
Nous nous sommes préparés à ces moments et avons envisagé tous les scénarios possibles. Nous avons également planifié la période qui suivrait le martyre de notre cher imam Khamenei. Je dis très franchement et très clairement à ces deux criminels, Netanyahou et Trump, à leurs acolytes et à leurs agents. Vous avez franchi nos lignes rouges et vous devez en payer le prix.
Mohamed Baguer Khalibaf, c'est vous qui venez de m'apprendre à prononcer son nom, Bernard Houkat. Qu'est-ce que cela signifie en iranien ?
Le tisseur de tapis.
Le tisseur de tapis. Alors pourquoi justement explique-t-il cela ? Et surtout, comment s'organise aujourd'hui la transition du pouvoir iranien ?
Du point de vue légal, les choses sont bien faites. L'Iran a tous les défauts, mais c'est une république qui essaie de fonctionner en fonction des lois. Et donc, très logiquement, immédiatement, trois personnes prévues dans la Constitution, le président de la République, le chef du pouvoir religieux et un membre du Conseil constitutionnel assurent l'intérim. Comme chez nous, le président du Sénat assure l'intérim. Là, il n'y a rien que de très banal. Et ensuite, ces gens-là devront organiser la première réunion du Conseil des experts, 88 personnes, des notables religieux, qui vont se réunir et qui vont choisir le futur guide ou le futur ensemble de guides. Je me pose cependant la question, l'Iran est en guerre depuis 3 jours, 4 jours, on ne peut pas circuler facilement, les 88 membres du Conseil sont dispersés dans tout le pays. Est-ce qu'il n'y a pas notamment des Israéliens qui seraient tentés d'assassiner un ou deux membres de ce comité ? Et le jour où il se réunira, n'y aurait-il pas des problèmes de sécurité ? Et donc, je me pose la question, mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, de savoir si ce triumvirat risque de durer, en attendant qu'un nouveau guide soit nommé, sachant qu'un nouveau guide, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Je crois que Khamenei était le dernier des guides. C'est le seul qui avait cet héritage et la compétence de le faire. Le futur guide, quel qu'il soit, n'aura jamais la capacité et l'influence de Khamenei.
Beaucoup de personnes, de responsables politiques iraniens, par ailleurs aujourd'hui, qui souhaitent devenir guide suprême, on imagine bien que la fonction risque d'être un peu instable à l'avenir.
Oui, c'est un CDD. Hein. C'est pas un CDI. C'est surtout une fonction qui a perdu sa signification. À une époque, l'islam politique, c'était une utopie, mais en fait, c'est une utopie donc qui a fait une révolution, qui a dit pourquoi pas l'islam, qui est une valeur populaire, et joindrait à la fois les besoins de développement économique, de prospérité, de liberté, et l'islam populaire, c'était le rêve de l'islam politique. La République islamique a démontré que c'était un échec, pour reprendre les mots d'Olivier Roy. Donc, c'est fini un peu tout cela.
Sur qui le système peut-il compter en Iran, dans le corps social iranien, on dit parfois que le système, c'est entre 500 et 600 000 personnes, que son assise est en réalité bien plus large parce qu'il faut compter sur les soutiens des soutiens, si je puis dire. Que sait-on justement aujourd'hui de cette assise du régime iranien ?
Alors, on parle souvent des 10-15% de gens de la population iranienne, de 90 millions d'habitants, qui sont à fond pour cette république, son système.
10-15%.
Dit-on, je n'ai pas fait de sondage et personne n'en a fait. Mais admettons une proportion de gens qui sont convaincus que l'islam politique est une très bonne solution et qu'il faut respecter les mollahs. Pourquoi pas ? Mais on dit aussi de l'autre côté que le régime est soutenu par les gardiens de la révolution. Là, c'est le mot magique. Et les Basidji, qui sont des miliciens et dont infâmes. Regardons les choses. Les gardiens de la révolution, c'est l'élite militaire du pays. Des gens bien formés, mieux payés, bien entraînés, qui ne sont pas des millions, ils sont environ 120, 150 000. Et c'est une armée importante, c'est une branche de l'armée, comme la Légion étrangère en France ou les Marines aux États-Unis. Bon. Ces gens-là, c'est l'armée actuelle, d'active. Mais autour de eux, il y a tout le réseau des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre Irak-Iran, qui ont 70, 80 ans aujourd'hui, mais qui, après la guerre, ont été recyclés dans la politique, dans l'économie, dans tous les secteurs de l'économie, dans la culture, dans l'université. On parlait de Radibaf, par exemple, ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, mais c'est un cher collègue de géographie à l'université de Téhéran. Et donc, ce n'est pas mon ami intime, parce qu'il m'a cassé les programmes de recherche que j'avais avec les collègues d'université. Mais donc, ces gens-là sont aujourd'hui installés. Et donc, c'est un réseau avec les anciens combattants gardiens de la Révolution, qui forment un réseau très puissant et très important.
Donc, c'est aussi une assise économique, sociale, qui dépasse largement la dimension sécuritaire du régime.
Absolument, absolument. Et donc, quelqu'un qui a été passe-d'art, et j'en ai vu des gens comme ça, en particulier pour le mois de Ramadan, quand à l'Eftar, la fin de la journée, on se réunit. Et on se réunit chez l'un, chez l'autre, chez des notables. Bon, j'ai été invité dans ce genre de choses. Et on voyait effectivement des gens qui se retrouvaient, qui avaient combattu il y a 30 ans, 40 ans ensemble, qui ont aujourd'hui des opinions différentes quelquefois, mais ils ont été frères d'armes. Et tout cela, alors tout ça, ça compte. Et les Basidji, qu'est-ce que c'est les Basidji? Ce sont des petits volontaires qui sont pas payés ou très peu. Mais c'est un réseau populaire de petits miliciens. Dans la mosquée du quartier, il y a des Basidji. Je suis Basidji du quartier. Ça permet de surveiller si les femmes ont un voile comme il faut et de dénoncer, de faire le réseau d'information. Mais c'est aussi, ce sont des gens qui sont dans les entreprises. Il y a les Basidji de l'entreprise, il y a les Basidji de l'université. Dans tous ces réseaux-là, ce sont des gens qui sont là un peu par intérêt. Vous voulez être facteur, il y a un concours des PTT. Si vous êtes très bon, c'est très bien, mais si vous êtes recommandé par la mosquée du quartier comme étant un bon Basidji, comme par hasard, vous êtes reçu numéro 2 et vous avez le poste de facteur.
Pour comprendre ce qui se passe également à l'intérieur du régime, je voudrais que vous décriviez à ce micro les relations qui peuvent parfois être tendues entre les gardiens de la Révolution, ce groupe militaire que vous avez mentionné, et les mollahs, justement. La différence, la tension qui existe peut-être entre le groupe qui incarne la sécurité et celui qui veut porter la religion.
Pendant la guerre Irak-Iran, les gardiens de la Révolution, qui étaient des intellectuels pour beaucoup au départ, des étudiants qui ont été pris des armes, ils se sont fait massacrer largement. La guerre a continué, elle n'a pu finir. Et donc, qui dirigeait la guerre, Khamenei et les mollahs avec Rafsanjani. Et donc la guerre s'est finie en 88 finalement. Mais les gardiens de la Révolution qui ont fait le job contre l'Irak, ils ont dit nous avons été floués. C'est pour ça qu'après la guerre, Rafsanjani leur a donné beaucoup d'argent. Il leur a donné des entreprises, etc., pour les calmer, qui n'ont pas un rôle politique. Mais les gardiens de la Révolution sont des étudiants, au départ. Ils ont fini leur doctorat après. J'en ai connu plusieurs, que j'ai connus comme étudiants, 3, 4, 5 ans après la guerre, qui terminaient leur doctorat. C'est une élite économique, politique très efficace. Les mollahs ont une culture différente. Ils sont formés dans les écoles religieuses. Et donc, l'Iran actuel, c'est deux sociologies. C'est pas la religion contre la sécurité. Ce sont les gens formés dans les séminaires religieux, qui ont une culture de mollahs, et les gardiens de la Révolution qui sont des pragmatiques, qui ont fait la guerre, qui maintenant sont des truands, des bandits, des voleurs, ce que vous voudrez. Mais ils sont capables de tenir le pays. Ils ont été capables de faire un programme nucléaire qui, ma foi, marche pas si mal, et de faire des missiles capables de toucher Israël. Il faut, du point de vue industriel et management, c'est pas Elon Musk, mais c'est équivalent, du point de vue de la capacité d'ingénierie.
Les mollahs, à l'inverse, ont pâti des dernières révolutions populaires iraniennes sur tout un tas de sujets bien précis, et notamment le hijab. C'est oui. Un groupe social qui a perdu dans les mobilisations sociales qui se sont structurées au cours des dernières années.
Tout à fait. C'est pour cela que un des éléments importants, c'est que la République islamique a cédé devant les femmes, en plus devant des femmes, vous rendez compte, la honte. Parce qu'effectivement,
vous dites en souriant, je précise.
En souriant, bien évidemment. Excusez-moi, on voit pas ça à la radio, mais j'espère que le ton était là. Ils ont perdu là-dessus pour la première fois un combat essentiel. La population iranienne a réussi à faire plier le gouvernement. Et les religieux ont été les victimes. Mais les gardiens de la Révolution aussi ont été battus. Le Hezbollah est éliminé. Bachar el-Assad est tombé. Les milices ont un programme uniquement iranien et les Houthis sont dans leur coin. Autrement dit, on a les mollahs qui ont été battus. Les gardiens de la Révolution ont été battus. Mais heureusement que Trump arrive, les attaque, permettant de souder ces deux corps pour sauver la République islamique.
Alors je fais un pas en arrière, Bernard Ourcade, expliquez-nous au global pourquoi le régime continue-t-il de tenir ? Quelle est l'armature politique, sociale, au-delà de celle que vous avez décrivée, de ses ramifications dans l'économie du pays, dans le corps social du pays ? Qu'est-ce qui permet encore au régime de tenir aujourd'hui sans sa tête, on l'a compris, mais avec le décrépissement que vous nous décrivez depuis tout à l'heure ?
La peur du chaos. La peur du chaos.
C'est la dernière arme du régime, la peur du chaos.
Oui, c'est-à-dire
le chaos, il existe depuis des mois. On connaît le nombre de morts qui ont été assassinés par le régime.
Oui, mais c'est pas un chaos.
Des dizaines de milliers.
C'est pas le chaos, c'est une force de répression très bien organisée qui a tué des milliers de personnes. C'est pas un chaos, c'est une volonté politique très organisée, au contraire, qui a massacré des gens. Et donc, voyant cela, en plus, sur le massacre de janvier, c'était une rupture épouvantable qui a divisé fondamentalement même les gens au niveau de l'État. On en reparlera peut-être. Mais pour en revenir à la peur du chaos. En Iran, on a parlé des 15% de gens qui soutiennent le régime, des gens qui sont militants, qui sont révoltés à plusieurs reprises sur les femmes, les prolétaires, les intellectuels, etc. Mais à chaque fois, ces groupes sociaux ne se sont pas réunis. Il n'y a pas eu unification de ces gens-là. Il
n'y
a
pas de convergence.
La convergence des luttes, on ne l'a pas vue. Il n'y a pas eu, alors que Khomeini, à l'époque de la Révolution, avait incarné cette convergence. Les amis que je connaissais, marxistes, communistes et autres, détestaient les mollahs, mais ils ont dit, bon, pour faire tomber le chat, il faut accepter. Un ami bon communiste me disait, j'ai bu 3 verres de vodka avant de manifester, de dire Allah Akbar, vive Roménie. C'était la nécessité pour pouvoir renverser le chat. Donc, il y a une opposition. Et donc, les gens ordinaires, la majorité silencieuse, j'aime pas ce mot-là, majorité silencieuse, mais beaucoup d'Iraniens, qui ont des postes aujourd'hui, ils sont payés. L'Iran est un pays bien organisé. Je suis au ministère de l'Agriculture, directeur d'irrigation. C'est un bon poste. Alors on va me dire, vous êtes corrompu, vous servez les mollahs. Non, je sers le ministère de l'Agriculture, je suis un bon technicien.
Et l'inflation à deux chiffres, et la crise économique, et les tensions sociales qui sont dans les rues, qu'ils traversent chaque jour.
Et donc je dis, les mollahs et leur régime est mauvais, il faut en changer. Je ne veux pas de ce régime, dont l'opposition est générale. Moi qui suis un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, je constate que ça ne va pas du tout. Outre le fait que tout le monde pique dans la caisse, c'est la corruption, ça marche mal. Regardez, le problème de l'eau est très mal géré, je suis bien placé pour en parler, et je ne suis que le directeur. Et donc, la protestation contre le régime est énorme. Mais pour renverser un régime aussi solide, qui a déjà depuis 45 ans, il faut une convergence, il faut une masse de gens, il ne faut pas des milliers de gens, il faut des millions de gens ensemble dans la rue pour protester. Et là, il faut que la majorité silencieuse, qui en a assez du système, mais il faut qu'ils aient quelqu'un à soutenir. On dit, ah ben le dictateur est mort. Bon, mais ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui propose une alternative. Elle n'est pas là pour l'instant.
Donc les appels du président américain qui appellent, si je puis dire, une partie de la population iranienne à se soulever, à prendre le pouvoir, à même faire preuve, c'était ces mots d'héroïsme pour mettre à bas le régime présent, c'est une chose à laquelle vous croyez ou non ?
Oui, absolument. Le président Trump a des paroles magnifiques. Et pour les concrétiser, il bombarde les gens et les tue. Je vois mal comment on pourrait en même temps dire aux gens construisez quelque chose de solide et en même temps je tue vos enfants, je détruis vos maisons et le système politique et même les infrastructures avec mes amis israéliens qui veulent la fin de l'Iran. Donc soyons logiques, on ne peut pas construire un pays et pousser des gens à reconstruire quelque chose alors qu'il y a les bons boutons sur la tête, c'est pas possible.
Je vais vous faire entendre une voix, celle d'une manifestante qui défilait place Pounak à Téhéran en janvier 2026, donc en janvier dernier.
J'étais en train de manifester et ils ont visé mes pieds. Ils tiraient sans distinction sur les jeunes et les vieux. Rien n'avait d'importance pour eux. Les gens n'arrivaient pas à emmener leurs proches vers les hôpitaux car les forces de répression fermaient les rues et les encerclaient pour leur tirer dessus.
Sur cette base sociale, Bernard Ourcade, du régime iranien dans son propre pays, l'Iran, est-ce que des manifestations comme celle-ci et les répressions sécuritaires qui s'en sont suivies, on le rappelle, des dizaines de milliers de morts, des drames humains absolument terribles, affreux, rien ne s'effrite, cette assise demeure tout à fait ?
Non. Je crois que les massacres de janvier, peu importe le nombre de morts, c'est énorme dans tous les cas, c'est un phénomène exceptionnel. Ces massacres ont élargi les fissures et fait des fractures à l'intérieur du système. Le système sait très bien qu'il a été battu idéologiquement, on en parlait tout à l'heure, sur les femmes, battu par les gardiens de la Révolution. Et aujourd'hui, tirer comme ça sur la foule, ça montre qu'ils n'ont plus du tout de légitimité. Ils ont oublié ce qu'était l'islam. Et il y a des, on se souvient que Montazeri, le successeur de Khomeini, s'était opposé au massacre des prisonniers en 88, en disant, c'est pas l'islam, cela. L'islam, c'est la justice. Et faire ça, c'est pas la justice. Autrement dit, ces massacres de janvier ont créé une haine, une fracture fondamentale. Pour reprendre, paraphraser une phrase célèbre, c'est pire qu'un crime, c'est une faute politique. En faisant cela, ils ont démontré qu'ils ne maîtrisaient absolument plus le système, même la dictature ne marchait plus. Et sinon, la répression. Cette rupture a précipité, je crois, beaucoup de choses et des événements d'aujourd'hui, montrant que la République islamique était très faible. Mais elle tient toujours parce que, tant qu'il n'y a pas d'alternative, même à ce niveau-là, les gens sont scotchés, sont terrifiés aujourd'hui par la situation. Et après avoir été massacrés en janvier, ils sont bombardés aujourd'hui. Donc, où regarder ? D'accord, ils ont tué le guide. Mais c'est un peu une façon de tuer le guide, est une façon de se faire pardonner. Le but n'était pas là. Le but des Israéliens et des Américains n'était pas de changer le régime. C'est pas le problème. On peut s'entendre avec des dictatures, c'est pas un problème. C'est de faire que l'Iran soit un pays faible. Un pays dans le chaos. Un pays incapable pendant 20 ans de se redresser. Et donc c'est ça l'objectif. Que le régime soit des mollahs ou pas mollahs, ce serait mieux si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est pas fondamental, je crois.
Il y a un nom qui ressort dans les médias occidentaux, porté par les médias occidentaux, Reza Pahlavi, le petit-fils du dernier Shah d'Iran. Le fils, alors que penser de cette alternative? Est-ce que c'en est une? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que l'assise sociale, justement, de Reza Pahlavi existerait, je parle au conditionnel, en Iran aujourd'hui?
C'est un gentil garçon, mais un paresseux.
Ça fait deux défauts, hein. Il n'y a pas deux mains entre les deux.
Oui, non, gentil garçon, il n'est pas méchant. Mais je veux dire par là, j'ai besoin de plaisanter sur une question extrêmement grave, mais pendant 40 ans, il n'a rien fait pour construire un parti royaliste, militant, et avoir une base populaire en Iran bien construite. Khomeini, à l'époque, avait en Iran l'ayatollah Talleyrani qui organisait tout un réseau de comités révolutionnaires dans toutes les mosquées d'Iran. Il avait un vrai réseau sur place. Et donc, la solution Pahlavi a été largement manipulée par les Israéliens, on le voit à Paris. C'est drapeau israélien et drapeau royaliste à la fois. Attendez, il s'agit d'un gouvernement israélien ou d'un gouvernement iranien. C'est assez bizarre de dire aux Israéliens, écoutez, je ne peux rien faire chez moi, mais s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main pour que je prenne le pouvoir chez moi. Qui est-il, ce monsieur, qui a besoin d'une aide étrangère pour prendre le pouvoir chez lui? Les Iraniens ne sont pas des chiens. Il faut respecter les Iraniens. Comment vous respectez les Iraniens et vous voulez prendre le pouvoir, il faut au moins avoir un minimum d'honneur, je dirais. Donc, l'opération Pahlavi a été très efficace pour semer la pagaille et provoquer des morts. Le but était effectivement, quand les Iraniens ont commencé à se révolter au mois de décembre dernier, Pahlavi est arrivé en disant « c'est moi, je vais organiser le pouvoir futur et voter pour moi » et d'ailleurs manifester dans les rues. Mais il n'avait pas des gens pour le protéger. Et les Israéliens ont dit la même chose. « Allez dans les rues pour manifester, je vous soutiens, les gens du Mossad sont dans les rues avec vous. » Ce qui a justifié, il n'avait pas besoin de cela, la répression. Et le fait que Pahlavi aujourd'hui, on lui reproche aussi de ne pas avoir protégé ces gens. Quand on est un chef d'État responsable, avec des ambitions politiques, on protège ces gens. Khomeini, à l'époque, disait « Criez Allahu Akbar sur les toits ». Et j'ai été témoin à l'époque. Les gens sur les toits des maisons, protégés, criaient « Allahu Akbar ». Et ça faisait un sacré effet. Les chars d'assaut dans la rue ne pouvaient pas taper sur les gens. Non, il n'y a pas eu de mort. Fils Pahlavi, fils de son père, il envoie les gens dans la rue et qui sont massacrés. Quand on envoie des gens devant les Basidji, le gardien de la Révolution, prêts à tout pour sauver le régime et leur peau, on sait très bien qu'il y aura des morts. Mais il voulait des morts pour empêcher que Trump continue les négociations. L'enjeu était là. Empêcher que Trump et la République islamique arrivent à un accord diplomatique. C'est le cœur du sujet, ça.
Que vous disent aujourd'hui vos contacts en Iran, Bernard Ourcade? Est-ce qu'ils sont à la fois heureux, satisfait de la mort du guide suprême et en même temps extrêmement inquiet des bombardements qui se poursuivent et qui font des centaines de morts civiles?
Les contacts depuis 48 heures, c'est zéro. J'ai pas réussi à téléphoner à mes amis. C'était difficile. Mais les gens ne vont pas pleurer sur Khamenei. Bon, c'est une évidence. Mais so what? Quelle est la solution après? Et c'est la solution, c'est des bombardements. En attendant, je suis bien content que M. Khamenei ait disparu, mais son successeur sera peut-être pire. Et en attendant, ce sont les plus radicaux qui prennent le pouvoir, qui mènent la guerre, qui sont donc ne vont tolérer aucune révolte, aucune protestation. Quand il y a une guerre, tout est arrêté.
Les plus radicaux prennent le pouvoir, vous dites?
Mais oui. Qui prend le pouvoir? Qui défend la patrie aujourd'hui? Qui défend le pays? Ce sont les gardiens de la Révolution et l'Arbacidji qui vont défendre contre les attaques israéliennes et américaines. Et qui va attaquer tous les pays voisins en semant le chaos dans toute la région? Ce ne sont pas les partisans de la liberté. Ce sont les plus radicaux du régime qui veulent essayer, par une espèce de conflagration régionale, éventuellement, de provoquer un chaos dont ils sortiraient vainqueurs, dernier espèce de champ du cygne, si vous voulez. Et donc, cette inquiétude est là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Inquiétude partout, je vous disais. Et la majorité des Iraniens sont pour un changement, c'est une évidence. Mais pour qui? Pour M. Pahlavi? Je me ferai tuer pour le fils, l'inventeur de la prison d'Evin, hein? C'est pas possible, ça. Et donc, si on veut un changement, il faut qu'il y ait un consensus national qui se fasse, avec des gens qui respectent l'islam. L'Iran contemporain est fait autour du chiisme au XVIe siècle. Ispahan, c'est fait par les chiites. Un Iran qui est national, le nationalisme iranien, ça existe.
Extrêmement fort.
C'est ça qui crée l'unité, mais il faut que ça soit crédible. Et troisièmement, une voiture internationale, qui est capable de réunir ce Iran, cet islam et cet international, je ne sais pas.
Merci beaucoup Bernard Ourcade. Je rappelle que vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du comité de rédaction de la revue Orient 21. Et un très très grand merci également à celles et ceux qui ont repensé dans le week-end cette émission. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Rodi Eken à la réalisation, Léa Racine.